Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre, hommage à Gérard Vergnaud. Le bulletin de psychologie publie un numéro en hommage à Gérard Vergnaud. Gérard Vergnaud nous a quittés le dimanche 6 juin 2021. Le bulletin de psychologie a décidé de rendre hommage à Gérard Vergnaud en publiant un dossier rappelant son apport à la recherche ainsi que son engagement institutionnel hors normes pour la défense et l'orientation de la recherche en psychologie. J'ai rencontré Annick Veilbarret, professeure honoraire en psychologie, qui a longtemps collaboré avec Gérard Vergnaud au sein du séminaire Apprentissage et Didactique. Vous l'entendrez en second. Et Isabelle Vinatier, professeure émérite en sciences de l'éducation, qui a fait sa thèse sous sa direction et est connue pour ses travaux en didactique professionnelle. C'est elle que vous entendrez en premier. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rendre hommage à Gérard Vergnaud? Et qui est Gérard Vergnaud?
Alors, ce numéro, qui est un numéro de bulletin de psychologie, d'abord, j'ai eu un appel d'Annick me proposant de collaborer avec elle pour monter un numéro en hommage à Gérard Vergnaud. Alors, Gérard Vergnaud, moi, je l'ai rencontré à Paris 5, rue Serpente, je l'ai eu comme prof à partir de la licence. Licence, maîtrise, DEA, thèse. Et c'est vrai que, dans notre champ scientifique, Gérard Vergnaud, c'est une figure scientifique à la fois dans le domaine de la didactique des mathématiques, mais pas seulement. C'est-à-dire que il nous a présenté une théorie qui non seulement pouvait servir dans le champ de l'enseignement disciplinaire, mathématiques en premier, mais de manière plus large aussi. Et d'ailleurs, il y a eu des thèses qu'il a dirigées, qui concernaient les mathématiques, mais aussi le français, le sport, etc., les arts. Mais ça concernait aussi l'environnement professionnel, le milieu professionnel. Donc Gérard Vergnaud était à la fois une figure scientifique extrêmement importante dans notre domaine, puisque à la fois ça pouvait concerner des apprentissages de nature disciplinaire, mais aussi des apprentissages de nature professionnelle. Bon, ça, on l'a su par la suite, si tu veux. Voilà. Et deuxièmement, c'était quelqu'un qui était extrêmement, je pourrais dire, un homme exceptionnel par son humanité. Voilà, exceptionnel sur le plan scientifique et exceptionnel par son humanité. Et comme Annick, pour moi, il était essentiel qu'on puisse lui rendre hommage à la mesure de ce que représentait pour nous cet homme en tant qu'homme et en tant que scientifique. Bon, je ne sais pas si tu partages cet avis, Annick, mais moi, en tout cas, j'avais à cœur de collaborer, et je t'en remercie, Annick, profondément. J'avais à cœur de collaborer à une production écrite qui resterait et qui rendrait hommage, parce que c'est un hommage, qui rendrait hommage à cette figure qui est tout à fait exceptionnelle.
Ce numéro est édité par le bulletin de psychologie. Et c'est important de savoir qu'est-ce que c'est que cette revue. C'est une des dernières revues françaises en psychologie, La plupart des revues ont été ont disparu. Voilà. Elles ont été complètement laminées par les revues anglo-saxonnes. Voilà. C'est une revue qui est intéressante parce qu'en fait, elle a été créée par un groupement de personnes, en fait, qui avait l'idée de rendre disponible la connaissance. C'est une association, en fait, qui existe toujours. Hein, et l'association allait recueillir auprès des enseignants, voilà, les textes de leurs cours et publiait, je dirais, les cours de psychologie pour les étudiants qui ne pouvaient pas assister aux enseignements. Il y avait quand même beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas boursiers, qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'université. Hein. Et à l'époque, on n'enregistrait pas. Enfin, c'était pas l'époque contemporaine. Hein. Et le bulletin de psychologie, en fait, éditait les cours des professeurs. Hein. Donc les étudiants qui pouvaient être présents prenaient des notes. Les profs qui étaient disponibles, ils relisaient les notes des étudiants. Hein. Et c'était publié dans le bulletin de psychologie. Moi, quand je suis arrivée à Paris, voilà, après un baccalauréat passé au lycée Joachim du Bellay à Angers, hein, j'ai tout de suite, je connaissais personne en fait à Paris, hein, et donc j'ai eu une stratégie de rentrer dans les réseaux associatifs, et je suis rentrée dans ce réseau des étudiants qui s'occupaient, je dirais, prendre des notes, des cours, qui était fait à la Sorbonne, voilà, et je participais à la révision de l'écriture des cours. Donc j'ai toujours une espèce de grande sympathie pour le bulletin de psychologie, qui en même temps m'a permis de rencontrer des gens hyper intéressants, hyper cultivés, hyper ouverts, hein, voilà, et des gens qui œuvraient en fait pour le collectif. Voilà. Et donc... connaissant Gérard Vergniaud et toute l'estime que j'ai pour Gérard comme Isabelle, hein, je trouvais que c'était vraiment lui rendre hommage, en fait, que de publier un numéro qui lui serait dédié, qui restituait en fait l'apport qu'il a pu avoir pour la psychologie. Enfin, à la fois un apport en tant que chercheur, hein, par rapport à sa production scientifique, mais aussi en tant que directeur de thèse. Hein, parce qu'il a dirigé de nombreuses thèses, près d'une centaine. Hein. Donc il a contribué à former toute une nébuleuse, je dirais, de personnes, à la fois en Europe, en Amérique latine, dans les pays européens. Donc il y a beaucoup de gens qui font référence, je dirais, à l'approche de Gérard Vergniaud, parce qu'ils ont fait leur thèse sous sa direction. Hein. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important du point de vue de l'orientation scientifique en psychologie. Il avait une vision de ce que va être la recherche en psychologie. Et à l'époque où moi je l'ai rencontré, c'était dans les années 70, voilà. Moi j'ai été recrutée en fait comme assistante à l'université Paris 8, qui est une université qui a été créée après le mouvement de 68. Hein, et j'ai été recrutée dans un laboratoire qui était supposé transformer l'approche de la psychologie. Il faut savoir que dans les années 70, à la fois en France et par le monde, la psychologie était une psychologie comportementaliste. Hein, on expliquait en fait, les comportements humains par des relations entre ce qu'on appelle les stimulus, hein, et puis les réponses. Donc, l'humain était une espèce de boîte noire. On ne savait pas ce qui se passait dans son cerveau, dans son esprit. Voilà, et on pensait pouvoir expliquer les conduites humaines par des lois simples, physico-chimiques, hein, qui faisaient des liens entre les stimulus et puis les réponses. Moi, je suis arrivée, dans ma carrière à moi, en fait... Cette approche de la psychologie, elle ne me convenait pas du tout, en fait. Voilà. En fait, personnellement, moi, j'ai fait de la psychologie parce que j'étais mauvaise en maths, j'étais mauvaise en langue, pas très bonne en français, voilà. J'étais mauvaise en plein de disciplines, et donc je cherchais une discipline où on pouvait réussir sans être bon en anglais, sans être bon en maths. Voilà. Et j'ai passé un concours pour rentrer à l'Institut de psychologie. On pouvait y rentrer par concours. Voilà. Et par chance, j'ai été reçue. C'est comme ça que je suis arrivée en psycho. Et j'ai découvert que la psycho, c'était ça, quoi. C'était des relations entre des stimulus et puis des réponses. Alors, c'était pas trop mon truc, quand même. Hein. Je n'étais pas très heureuse de penser comme ça. Donc, pour me nourrir un peu mon esprit et mes aspirations, à côté de la psycho, je me suis inscrite aussi en histoire de l'art. Hein. Donc, ce qui était une chose maintenant impossible. Hein, un étudiant, il ne peut pas me mêler de front une licence de psychologie, une licence d'histoire de l'art. Voilà. Moi, j'ai fait ça. Voilà. Je me suis inscrit aux deux. Voilà. J'ai réussi dans les deux. Voilà. Bon, il s'est trouvé que pour vivre à Paris, il fallait quand même que je travaille un peu. Mes parents m'aidaient beaucoup financièrement, mais pas assez pour toutes mes aspirations culturelles, parce que j'allais aux concerts, j'allais dans les musées. J'allais à la Comédie Française, il m'arrive aussi dans le restaurant, donc j'avais pas les moyens de mon train de vie par rapport à ce que me donnait ma famille. Donc, je cherchais plein de petits boulots pour me faire de l'argent, quoi. Voilà. Et là où j'ai trouvé, en fait, à trouver les petits boulots, c'était en psycho. Je faisais j'étais chargée d'études, enfin, j'ai commencé chargée d'enquête. Voilà, donc je sortais à la sortie les Galeries Lafayette et j'interrogeais les gens sur le plaisir qu'ils avaient eu à aller aux Galeries Lafayette. Voilà, assez rapidement, je suis devenue chargée d'études, donc j'étais chargée du traitement des données statistiques. À cette époque-là, on n'avait pas des logiciels comme maintenant, on faisait ça à la main, quoi, voilà. Donc j'étais devenue un peu, je trouvais des petits boulots assez régulièrement qui permettaient d'alimenter mes sorties. Alors, et c'est comme ça qu'en fait que j'ai continué en psychologie, en fait. Voilà, parce que ça me rapportait plus d'argent que de faire des histoires de l'art, en fait. Voilà. Et puis 68 est arrivé, il y a une université Paris 8 qui a été créée, voilà, et puis ils ont recruté des assistants. Voilà. Et comme moi, j'avais cette expérience, déjà l'expérience professionnelle, j'avais eu la chance aussi d'avoir été recrutée comme monitrice de travaux pratiques à la Sorbonne. Voilà. Donc, j'ai été recrutée comme ça, assistante à l'université Paris 8, voilà, où j'ai fait toute ma carrière jusqu'à ce que je devienne prof et où j'ai été nommée à ce moment-là à l'université de Nanterre. Pour en revenir à Gérard Vergnaud, voilà, c'est quelqu'un qui m'a un peu sauvé la vie quand même. Parce que j'avais été formée avec une psychologie stimulus-réponse, voilà, qui ne me satisfaisait pas, ce qui expliquait que j'avais plutôt envie de faire de l'histoire de l'art plutôt que de faire de la psychologie. Voilà. Et puis, il y a eu un premier congrès qui a été organisé par l'Université Paris 8, qui était un congrès qui était sur les représentations mentales. Voilà. Et à l'époque, on était sur une bande de jeunes qui avaient été recrutés comme ça, et on avait été chargés d'organiser ce colloque sur un certain nombre de points. Voilà. L'accueil du public, le livret avec les résumés des communications. Donc, ça m'a mis, le pied à l'étrier pour apprendre comment est-ce qu'on organise une manifestation scientifique. Et là, j'en ai un souvenir, mais extrêmement précis. C'est quand Gérard Vergnaud a fait une conférence sur l'importance des représentations mentales, où il a stigmatisé complètement une psychologie qui pensait qu'on allait comprendre le psychisme humain en faisant des relations quasi mathématiques entre les stimulus et les réponses. Et Gérard, à ce moment-là, a défendu une théorie de la représentation mentale et a défendu l'idée que l'avenir de la psychologie, c'était de construire des théories de la représentation qui pouvaient rendre compte, en fait, du développement des compétences et des capacités qu'avaient les humains à résoudre des problèmes complexes. Et ça, franchement, c'était une parole complètement libératrice. Et je me suis dit, ça, c'est l'avenir de la psychologie. C'est travailler sur la représentation mentale.
Alors, et pourquoi Gérard Vergnaud en est venu à s'intéresser particulièrement aux mathématiques ?
Alors ça, je l'ai appris plus tard, en fait, en m'intéressant un peu à l'histoire de Gérard Vergniaud, parce que c'est quelqu'un... Bon, d'abord, il est né d'une famille relativement modeste. Alors ça, c'était quelque chose qui nous a rapprochés, où un jour, on discutait, et j'apprends qu'il était né à Douai-la-Fontaine. Alors Douai-la-Fontaine, pour les gens qui habitent dans le coin, tout le monde sait, c'est au sud de la Loire, une commune qui est sur des galeries épouvantables, ça s'effondre partout, hein, parce que ça a été exploité, parce que les gens extrayaient une pierre très meuble, en fait. Alors tout le monde connaît dans le coin Douai-la-Fontaine pour ses cathédrales souterraines, hein, puisqu'il reste de cette exploitation de la tuf, il reste des trucs absolument extraordinaires qui font des hauteurs sous plafond incroyables. Enfin, c'est un lieu absolument magique. Voilà. Donc, Gérard est né là, hein, d'une famille nombreuse. Ils étaient, si je me souviens bien, 5 ou 6 enfants, ce qui est quand même peu par rapport aux grandes familles de cette époque. Voilà. Et il est le seul, il était le dernier de la famille. Voilà. Il est le seul à avoir fait des études supérieures. Voilà. Il avait été repéré comme un enfant doué, hein, ce qui fait que ses instituteurs et après ses professeurs au collège, ils l'ont poussé à continuer ses études. Et donc il a passé le baccalauréat au lycée David d'Angers. Voilà. Alors ça nous a rapprochés parce que moi, venant de Beaugé, j'avais été élève à Jaochen du Bellay. Voilà, ce qui était réservé aux filles. À l'époque, il y avait le lycée de filles et puis le lycée de garçons. Donc lui, il était au lycée David d'Angers, dans le lycée de garçons, au centre-ville. Et moi, un peu plus tard, je suis plus jeune que lui, j'étais à Jaochen du Bellay. Donc ça nous faisait rigoler d'avoir... On se rappelait nos souvenirs de lycée. Voilà. Et puis après, il a eu le bac avec mention. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait HEC. Alors pour un garçon qui venait de très classe moyenne, tout à fait ordinaire, hein, voilà. C'est un prof qui l'a poussé à faire ça. Voilà. Voilà. Alors HEC à l'époque, pour passer le concours pour entrer à HEC, il fallait avoir un bon niveau de maths. Donc il a bénéficié de cours de maths pour le préparer à HEC. Voilà. Et bon. Il est rentré à HEC, d'après ce qu'il nous a raconté, il n'était pas très... ce n'était pas une formation qui l'enthousiasmait. Hein, puis c'était quelqu'un intelligent, avec une forte capacité de travail. Donc il est arrivé à Paris, mais comme tous les provinciaux, et je me suis très bien retrouvée dans son histoire, hein, voilà, il passait son temps au théâtre, au concert, à l'opéra. Et évidemment, comme moi, il avait besoin d'avoir des ressources financières pour pouvoir profiter de cette offre culturelle parisienne. Voilà. Et donc, il faisait plein de petits boulots. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui dit « On cherche quelqu'un qui pourrait conseiller à l'école alsacienne pour l'enseignement des mathématiques. » Alors, l'école alsacienne, c'est une école privée, non confessionnelle. Voilà, et qui encore maintenant d'ailleurs est réputée par ses pédagogies innovantes. Voilà. Donc Gérard est devenu comme ça conseiller pour l'enseignement des mathématiques à l'école alsacienne. Voilà. Et là il a rencontré des gens intéressants. Voilà. Et lui qui n'était pas matheux, enfin il avait une culture mathématique parce que pour arriver à HEC il fallait quand même avoir un certain niveau de maths. Enfin c'était pas un prof de maths, il faisait pas une licence de maths. Voilà. Et d'ailleurs, quand il était arrivé à Paris, alors, comme il s'ennuyait un peu à HEC, il faisait des cours de mime. Voilà. Donc, il faisait un peu tout, quoi. Voilà. On avait ça en commun, quoi. C'est-à-dire que la discipline dans laquelle on était ne nous absorbait pas assez pour nous occuper l'esprit, quoi. Donc, il faisait du mime. Voilà. Et puis... Pour gagner un peu d'argent, quoi, il était conseiller pour l'enseignement des mathématiques à l'école alsacienne. Et là, il s'est mis à réfléchir à l'enseignement des maths sans a priori, parce qu'il n'était pas matheux, lui. Il n'avait pas passé ni le CAPES, ni la GREG, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui avait une grande empathie. Il se mettait toujours du côté des enfants. Il se mettait toujours du côté du sujet qui est en train d'apprendre, quoi. Voilà. Et donc, assez vite, il s'est rendu compte, en fait, que Bah, les maths, c'était pas uniquement apprendre les algorithmes, apprendre à calculer par cœur, voilà. Et que c'était des ensembles relationnels, que ça avait du sens, que ça s'ancrait dans des univers pragmatiques. Voilà. Et donc, il a eu un regard complètement différent, je dirais, sur l'enseignement des mathématiques, que ce qui pouvait exister au moment où il s'est intéressé à ça, quoi. Voilà. Et je ne sais pas s'il reste des traces des conseils qu'il a pu donner. Ce qui est sûr, c'est qu'il se mettait toujours du côté des enfants et de la manière dont les enfants comprenaient qu'est-ce que c'était qu'un nombre, qu'est-ce que c'était qu'une opération sur les nombres. C'est-à-dire qu'il se mettait du côté du sujet plutôt que du côté, je dirais, de l'axiomatique mathématique, quoi. Voilà.
Et alors, comment est-ce qu'il est devenu professeur des universités dans l'école publique et républicaine ?
Il n'a pas été professeur d'université, il a été un chercheur au CNRS. Alors, après qu'il a été diplômé d'HEC, voilà. Alors ça, je ne me souviens plus qui c'est qui l'a introduit, parce que ce n'était pas quelqu'un qui avait un réseau mondain. Parce que comme je le raconte, c'est quelqu'un qui venait d'un milieu social tout à fait modeste. Hein. Son père tenait une épicerie ou un truc comme ça, quoi. Hein. Ah. Et c'était la classe moyenne, on va dire. Ah. Et donc il n'avait pas de réseau intellectuel. Enfin, moi j'ai vu plein de gens qui ont fait des carrières, mais ils étaient dans des réseaux intellectuels. Déjà, le papa était ceci, donc c'était plus facile de pouvoir. Ce n'était pas, c'est pas du tout le cas de Gérard, en fait. Voilà. Et c'est quelqu'un qui lui a conseillé, en fait. Il était mime. Voilà. Et il a compris que pour être un bon mime, en fait, il fallait être capable d'observer les conduites humaines. Voilà. Mais à la limite, bon, de mon point de vue à moi, il n'avait pas besoin de ça pour le savoir. C'est quelqu'un qui avait une grande sensibilité, beaucoup d'empathie. Voilà. Enfin, toujours est-il que quelqu'un lui a conseillé, après HEC, de faire une thèse en psychologie. Et il est parti à Genève faire sa thèse en psychologie. Alors ça, c'est assez intéressant. À Genève, c'était l'époque, la grande époque glorieuse de Jean Piaget. Voilà. Jean Piaget avait cette particularité, c'est qu'il était extrêmement ouvert et qui était capable d'accepter quelqu'un en thèse qui n'avait pas forcément la formation de psychologie. Hein, Gérard a fait une thèse en psychologie, en fait, hein, sans avoir fait d'études de psychologie. Hein. Mais il suivait le séminaire, il est allé à Genève, il a rencontré les grands pontes de l'époque à Genève. Hein, c'était, moi, j'ai eu la chance de pouvoir séjourner 15 jours au laboratoire de Jean Piaget. Et j'ai pu observer que c'était une espèce de communauté d'intellectuels, voilà, qui était très disponible. Les gens passaient leur temps, enfin, si on leur posait des questions, ils avaient un temps infini pour vous répondre. Il n'y avait pas de compétition. Enfin, apparemment, comme ça, il n'y avait pas de compétition. On était dans le partage des savoirs, on allait manger ensemble, on allait au spectacle ensemble, une espèce de communauté d'esprit où les pensées circulaient. Puis quand on regarde les gens qui sont passés à Genève, il y avait des matheux, il y avait des physiciens, il y avait des biologistes, il y avait des philosophes, il y avait des mathématiciens. Alors, tous les gens qui s'intéressaient au développement d'esprit, au développement de la pensée, ils arrivaient à Genève, au centre d'épistémologie génétique, et ils trouvaient des gens avec qui discuter, collaborer. Alors moi, je me souviens, je suis allée, j'ai passé des heures et des heures dans les archives Jean Piaget. On pouvait consulter comme ça, sans demander rien à personne, les archives, les protocoles des élèves de Piaget. Comme ça, j'ai découvert des trucs absolument incroyables que je n'imaginais pas que ça pouvait exister. Donc Gérard, il a fait sa thèse sous la direction de Piaget. En fait, si j'ai bien compris, il a rencontré Piaget deux ou trois fois. Voilà. Il a surtout collaboré avec un certain nombre de gens. Voilà. Et puis, l'originalité de son travail, ça a été plutôt de sortir complètement, je dirais, de l'approche piagétienne, hein, qui avait un mode explicatif du développement de la pensée par stade. Lui, il a complètement abandonné ça. Je trouve ça incroyable parce qu'il a fait une thèse anti-piagétienne, en fait. Et ça, c'est une liberté de pensée, enfin, que je trouve extraordinaire, qu'une thèse puisse se soutenir finalement contre le patron lui-même, quoi. Voilà. Lui, il a eu l'idée qu'on pouvait modéliser en fait le raisonnement de l'enfant qui était placé face à une situation pratique, voilà, de modéliser ça par des systèmes de règles. En fait, il était un des premiers en fait en France à essayer de rendre compte du fonctionnement de la pensée par un système de règles, en fait, hein, et des règles de type mathématique, en fait. Hein, des types si alors. Hein, voilà. Et il a eu évidemment une excellente mention. Sa thèse a été remarquée parce qu'il était un des premiers, et surtout venant de l'université de Genève, qui était une approche, on disait, structurale. Hein, il avait une approche fonctionnelle de la pensée, quoi. Voilà. Et à l'époque, parce que maintenant c'est plus possible, voilà, quelqu'un de brillant comme lui, qui avait quand même osé faire une thèse, je dirais qu'elle est à l'encontre du maître, hein, il a été recruté au CNRS. Hein, il a été recruté tout de suite comme attaché de recherche. Et très rapidement, il est passé attaché, chargé, et il est devenu directeur de recherche au CNRS. Alors, en tant que directeur de recherche, hein, comme je l'évoquais déjà, il a dirigé énormément de thèses. Hein, mais surtout, il a joué un rôle politique considérable. Il a dirigé la commission psychophysiologie au CNRS. Hein, c'était la commission qui décidait des recrutements, hein, des chercheurs, qui décidait aussi des orientations scientifiques. Hein, donc, pendant, je dirais, 20 ans, hein, la psychologie française, elle a été complètement déterminée, je dirais, par les orientations scientifiques de Gérard Vergnaud, en fait, qui a réussi à convaincre, lui-même recrutait des gens qui étaient, je dirais, en harmonie avec son système de pensée. Hein. Et il s'est attaché, en fait, à développer des structures universitaires et de recherche qui permettaient le développement de la recherche en éducation en France. Voilà. Il a en particulier développé ce qu'on appelait le groupement de recherche en didactique des mathématiques et des sciences, voilà, qui est un groupement de recherche qui a fonctionné pendant une vingtaine d'années, voilà, qui a été subventionné par le CNRS, hein, et qui a, c'est un groupement de recherche qui regroupait des personnes de l'ensemble des universités françaises, en fait, hein, qui se retrouvaient, je dirais, dans les orientations scientifiques de ce groupement de recherche. Voilà. Les orientations politiques du ministère de la Recherche ont fait que ce groupement de recherche n'a pas l'espoir de Gérard, c'est que ça donne lieu, en fait, à la création d'un gros laboratoire de recherche en éducation en France, hein, qui n'a jamais vu le jour, pour des raisons politiques.
C'était ma rencontre avec Annick Veil-Barret et Isabelle Vinatier en hommage à Gérard Vergnaud.